France Inter. Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Ce matin, nous sommes dans la tête d'une jeune femme chinoise qui a la vingtaine. Son téléphone sonne. Tiens, un numéro qu'elle ne connaît pas. Bonjour, service des naissances du gouvernement. Je me permets de vous appeler car je vois que vous êtes en âge de procréer. Savez-vous qu'il existe de nombreux avantages fiscaux? Attendez, ne raccrochez pas, laissez-moi deux minutes. À chaque bébé, c'est l'équivalent de 500 euros par an. Crèche, garde, on met tout à votre disposition. La Chine compte sur vous, sinon elle va droit au déclin. La Chine s'enfonce dans l'hiver démographique. Face au vieillissement de sa population, elle fait tout pour inverser la courbe des naissances. Alors avec quel résultat? Ces politiques natalistes sont-elles seulement efficaces? L'Europe est face au même baby crash. En France, on perd l'équivalent en population d'une ville par an. Un diagnostic alarmant aux origines complexes. Selon un sondage IFOP, les Français rêveraient idéalement d'avoir plus de deux enfants. Mais la réalité est que le taux d'enfants par femme est tombé à 1,62. Alors pourquoi ce décalage? Y a-t-il des barrières à la natalité en France? Pouvoir d'achat en berne, absence de mode de garde, frein à la carrière des femmes, dénatalité, peut-on enrayer le déclin? Débat jusqu'à 12h45.
France Inter, le débat de midi, Paola Puerari.
Et ce débat sur ce mot, le natalisme, vous passionne déjà, chers auditeurs, et il fait paniquer Louise qui nous écrit « J'ai eu 4 enfants, cela s'est fait comme ça, par amour, les femmes ne sont pas des poules pondeuses et les enfants des objets pour renforcer la nation. » Au contraire, Florent compare avec un autre pays. « Mon épouse est russe, dans son pays il existe un véritable projet de maternité sur 3 ans, avec un revenu minimum garanti pour la mère. Ici, le congé maternité est très très court et les aides sont insuffisantes pour permettre un vrai choix parentale. Alors, comme si ces auditeurs et comme ces auditrices, eh bien, vous voulez participer au débat, vous pensez que l'État devrait plus soutenir les familles, au contraire, qu'il ne faut surtout pas mettre la pression aux femmes, ou bien que les deux sont conciliables, pourquoi pas. Vous réagissez sur l'application France Inter, vous nous envoyez des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000, 01 45 24 7000, comme Marion qui s'est enregistrée.
C'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de défiscalisation, c'est un problème d'être invisibilisé. Il y a une espèce de déclassement quand on devient maman. On est moins bien traité dans les entreprises, on perd des opportunités professionnelles. On est celle à qui il faut faire hyper attention à pas confier des trucs, bah parce que elle a ses gamins à gérer, et c'est encore pire quand on devient maman solo. Et moi, j'ai envie d'avoir des enfants, mais apportez-nous du soutien.
Apporter du soutien à ces femmes qui veulent avoir des enfants. Nous allons avoir ce débat avec des spécialistes de la courbe des naissances et en tout cas des personnes qui ont planché sur ce sujet. Bonjour Gabrielle Cluzel.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueuse à CNews, Europe 1, auteure chez Fayard de Yes Kids et on peut le dire puisque je crois que c'est public, maman de 7 enfants. Vous êtes donc la team Famille Nombreuse qui repeuple la France. Face à vous, Anne-Cécile Maillefer de la Fondation des Femmes. On se souvient que vous aviez été choquée par l'expression d'Emmanuel Macron, le réarmement démographique, et que vous aviez dit, pour vous, eh bien, les enfants ne sont pas des armes. Bienvenue sur ce plateau. Maxime Zbaybi, bonjour.
Bonjour.
Économiste, auteur du livre Les balançoires vides, publié aux éditions de l'Observatoire. Face à la dénatalité, pour vous, il y a 3 voies qui se dessinent, procréation, mais aussi
immigration et robotisation.
On aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, Julien Damon, bonjour.
Bonjour.
Sociologue, professeur associé à Sciences Po, auteur des Batailles de la natalité aux éditions de l'Aube. Vous avez une solution pour booster les naissances, rendre les sites de rencontres comme Tinder ou Mythic gratuits. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Alors, on va plancher sur ce mot, natalisme d'abord, parce qu'il évoque eh bien, des fantasmes, des peurs, des espoirs. Qui est pour ce mot? Qui est pour qu'on l'utilise? Qui en a peur? Anne-Cécile Maillefer, je vous vois réagir.
Non, mais c'est vrai que pour les féministes, en tout cas, nous, ce qu'on a pu constater au travers de l'histoire, c'est que ces politiques-là ont souvent été des politiques anti-droits des femmes et des politiques aussi racistes. Donc c'est vrai qu'on a plutôt une méfiance de prime abord sur la manière dont les politiques, qui sont d'ailleurs quand même en immense majorité des hommes, considèrent les enfants, considèrent les femmes, considèrent les mères. Et ça s'est traduit par de multiples politiques qui sont néfastes. Et on a pu le voir dans beaucoup de pays, hein, par rapport au droit à l'avortement, par rapport à la contraception. Donc le natalisme, c'est sûr que ça a ce bagage-là qui est un bagage qui n'écoute pas les femmes, qui n'écoute pas les mères et qui va plutôt s'attacher à faire en sorte qu'elles produisent, point barre.
Gabriel Cluzel, pour vous aussi, c'est l'avatar des régimes fascistes, ça veut dire que le ventre des femmes est au service de la nation, le natalisme.
Moi, je suis effrayée de voir que l'enfant, aujourd'hui, est devenu quasiment crypto-pétainiste. Mais si vous voulez, l'enfant, il n'a pas de couleur politique. Victor Hugo, qui était un homme de gauche, il a écrit les plus belles pages sur l'enfant. La femme de Torres aussi, elle dénonçait le néo-malthusianisme bourgeois, vous voyez, qui est le bourgeois qui ne voulait pas avoir beaucoup d'enfants pour ne pas disperser sa fortune. Et aujourd'hui, c'est devenu un marqueur de droite, voire d'extrême droite. Et moi, je crois qu'au contraire, il y a aujourd'hui un dénatalisme qui règne. C'est-à-dire qu'on conditionne les femmes à ne pas avoir d'enfants. On les dissuade, on les en dissuade. Le témoignage de cette jeune femme est du reste très parlant. Hein, elle dit qu'elle aimerait avoir des enfants, mais pour un certain nombre d'obstacles, elle n'en a pas. Et moi, il y a un point qui m'a énormément marqué, voire choqué, c'est qu'au moment de la réforme des retraites, vous savez, dans Harry Potter, il y a Voldemort, celui dont on ne prononce pas le nom, mm-hmm. Et bien là, c'était Voldemère, celle dont on ne prononce pas le nom. On sait que sans enfants, eh bien, les retraites sont une pyramide de Ponzi. Personne n'a été capable de parler de ce mot-là, alors qu'il y a des mères partout à l'Assemblée. Hein. Yaelen Brun-Pivet, elle a 5 enfants. Sandra Rousseau, même elle, qui est dénataliste, elle en a 3. Les mères de familles nombreuses sur le plan administratif, Marine Le Pen, etc., etc. Et c'est un sujet aujourd'hui tabou.
Alors, je passe la parole à l'économiste Maxime Sbahi, qui a planché sur cette question des retraites. Est-ce que Gabriel Cluzel n'a pas raison? Est-ce qu'effectivement, si on n'essaye pas d'enrayer ce déclin de la dénatalité, eh bien notre système des retraites va vaciller complètement?
Je dirais pas vaciller complètement, mais ce qui est sûr, c'est que la France a un modèle social qui est extrêmement sensible à la démographie. Et d'ailleurs, pour revenir sur le mot natalisme, justement, la France s'est toujours enorgueillie d'avoir une politique familiale nataliste. Avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. La libération, l'idée, c'était justement de dire, on fait un modèle social par répartition, donc où les générations doivent payer d'aujourd'hui, doivent payer pour les générations d'hier, donc il y a besoin d'avoir beaucoup de jeunes pour payer pour les retraités. Et donc, en face de ça, on est obligé de mettre, alors c'est des incitations, des prestations, on peut choisir les mots,
des mais allocations.
Un natalisme en fait qui permette à ceux qui veulent avoir des enfants d'en faire. Et donc dans le natalisme, il faut faire attention parce qu'il y a plein de nuances différentes. Moi, je jetterai pas tout le natalisme à la poubelle, bien sûr que non. Il y a du natalisme à la française, très classique, prestations familiales, allocations familiales, caution familiale, congé parental, etc. Ça, c'est du natalisme, on va dire, très classique, franchouillard.
Du bon natalisme, finalement.
Après, il y a du natalisme qui, effectivement, là, on rigole beaucoup moins. Vous avez cité l'exemple en début d'émission de la Chine qui aujourd'hui harcèle les jeunes femmes avec des armées de fonctionnaires pour les appeler à procréer.
Là, on les a empêchés d'en avoir quand même.
Oui, en plus, ils ont complètement
inversé la tendance.
Et donc, effectivement, il y a plein de formes de natalisme différents. D'ailleurs, tous les pays aujourd'hui qui sont confrontés à la dénatalité, c'est quasiment tous les pays au monde, tentent par des mesures diverses et variées d'y remédier. Donc, le natalisme en soi n'est pas un gros mot. Par contre, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière et comment les pouvoirs publics s'en emparent.
Et pourtant, c'est un mot qui tombe à droite, voire à l'extrême droite, et dont la gauche a du mal à s'emparer. On entendait le député François Ruffin dans l'Assemblée nationale dire « Attention, attention, on veut permettre aux femmes d'aller jusqu'au bout de leur désir de maternité, mais sans jamais les forcer. Il n'y a pas de devoir patriotique. » Julien Damon, comment est-ce que vous expliquez que la gauche est si mal à l'aise face à ces questions de natalité ?
Eh bien, je dirais que c'est parce qu'il y a eu une parenthèse historique de la gauche entre 1980 et 2000, et vous avez eu un aggiornamento de la gauche quand Madame Royal a été ministre de la Famille. D'ailleurs, elle-même mère de famille nombreuse. Pourquoi cela ? C'est parce que, en effet, des années 80 à 2000, on avait une image assez néo-pétainiste dans les débats, hein, de ce qui a pu être mis en place à partir de la Libération, mais Maxime en a dit un mot, c'est plus ancien que cela, le natalisme à la française, ça naît après une autre guerre, c'est celle de 1870, quand les Français se sont dit « aïe aïe aïe, les Allemands vont être plus nombreux que nous mm-hmm. ». Donc il faut faire à la fois des petits soldats et des mamans de petits soldats pour aller à la guerre. Quand on prend l'ensemble des présidents de la République, de la 4e et de la 5e, tous ont eu des mots alors natalistes et même extrêmement militarisés pour dire qu'il était nécessaire de faire des petites têtes blondes. Alors après, il y a mille débats sur les têtes qui ne sont pas toutes blondes aujourd'hui, pour faire que la France ne soit pas une étoile qui s'éteint. Je cite en cela le général de Gaulle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, puisque vous me posez la question, la gauche des années 80 et des années 90 s'est dit « Ah ben non, ça c'est pas féministe », donc on en a eu un mot ici, on pourra peut-être y revenir, c'est quelque chose qui semble d'un autre âge, quand de 1980 à 2000, les questions démographiques n'étaient absolument pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, en 1980, on a pris cette décision, alors on peut l'aimer ou non, mais radicale dans le système de protection sociale français, consistant à basculer d'un âge de départ de la retraite de 65 ans à 60 ans. Donc on est devenu un peu aveugle à la démographie pendant cette période. Mais, je répète, mon pro-royalisme, si j'ose dire, c'est-à-dire que Madame Royal, lorsqu'elle a été ministre de la Famille, est vraiment revenue sur ses 20 ans. C'est deux décennies d'une gauche qui considérait que la politique familiale à la papa, c'était quelque chose dont on ne devait pas se préoccuper.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous écrivent sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000. Elisabeth nous dit « J'ai trois enfants, rien n'est fait pour nous aider. Nous, les familles nombreuses, nous éprouvons des difficultés à trouver des logements avec suffisamment de pièces, de grandes voitures. Pourquoi l'État ne nous aide-t-il pas ?» Gabriel Cluzel, vous qui avez cet enfant, est-ce que vous ressentez effectivement que la France n'aide pas ceux qui repeuplent la France ?
Ah, mais je confirme, moi je suis très frappée de voir à quel point cette catégorie de femmes que sont les mères, et a fortiori les mères de familles nombreuses, ne sont pas aidées. D'ailleurs, vous savez, on parle souvent des catégories de population qu'il ne faut pas stigmatiser, mais je peux vous assurer qu'elles sont stigmatisées. Je vais vous donner un exemple précis sur un appartement. Elle dit que c'est difficile de se loger. Quand vous allez voir pour louer un appartement que vous avez plusieurs enfants, l'agence immobilière vous dit volontiers « Ah, le propriétaire ne veut pas vous louer, vous voyez, parce qu'il a l'impression que vous avez des pitbulls à la place de vos enfants et que ça va être compliqué. Hein, » okay. Tous ces sujets-là, en fait, ça, je vais vous dire, c'est du féminisme concret, parce qu'une majorité de femmes et mères, il faut le dire. Et moi, je m'étonne que tous ces sujets-là ne soient pas mis sur la table et défendus. Voilà ce qu'il faut faire, c'est permettre aux femmes qui souhaitent avoir des enfants de les avoir et que ça se passe bien. Voilà.
Anne-Cécile, je pense qu'il faut arrêter de plaquer ces stéréotypes-là sur les féministes. Au contraire, moi, je pense que les féministes, elles ont justement une vision particulièrement saine et particulièrement équilibrée de ce que doivent être des politiques qui permettent à chaque femme de pouvoir déployer, développer un projet de maternité si elle le souhaite ou pas. Toutes les féministes dénoncent la stigmatisation des mères, bien évidemment. Moi, par exemple, je suis co-commissaire d'une exposition qui sera lancée au MUCEM en mars 2026 sur les maternités en Méditerranée et je vous inviterai à venir la voir et je suis sûre que vous apprendrez plein de choses sur les maternités au cours des âges dans les arts et en Méditerranée. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'en fait, on a cette vision très... les féministes sont contre et les autres sont complètement pour. Moi, ce que je vois surtout, c'est d'immenses incohérences tout le temps. Et c'est ça qu'en fait, moi, je dénonce. Non, c'est ce contre quoi je milite, c'est qu'on va à la fois dire il faut plus de bébés, puis après on va voter cette loi Duplon qui remet des néonicotinoïdes qui vont être très néfastes pour la fertilité. On nous dit il faut travailler plus pour gagner plus et en même temps faire plus de bébés. Et on met à mal le logement social, on revient sur le plafonnement des loyers et en même temps on nous dit plus de bébés. Il y a l'explosion de la mortalité infantile et maternelle en France, il y a la fermeture des lits de maternité.
Je suis pas sûr que tout ça soit lié avec la fécondité, honnêtement. Ça fait beaucoup de choses.
Je pense que ça contribue énormément. L'explosion de la mortalité infantile et tout le monde s'en fout. Et après, on nous dit qu'il faut faire plus de bébés. Je veux dire, s'il y a un truc, c'est incohérent.
Mais est-ce qu'il faut faire plus de bébés ?
Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel moi, je ne dis pas et je ne dirai jamais qu'il faut faire plus de bébés. En fait, quand on me dit le système économique ne tiendra pas si les femmes ne font pas plus de bébés, moi, je me dis qu'on prend le truc à l'envers. En fait, c'est pas les femmes et la vie doivent s'adapter à l'économie, c'est l'inverse qui doit se passer. Donc si aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est effectivement, est-ce que les femmes sont discriminées alors qu'elles sont mères ? Oui. 90% des discriminations qui touchent les femmes, c'est dû au fait qu'elles ont des enfants. À la Fondation des Femmes, on a un observatoire de l'émancipation économique des femmes et je vous invite, Madame Cluzel, du coup, à regarder ce qu'on produit parce qu'on a fait des tas de notes sur les problématiques liées à la maternité, justement, et on les dénonce. Et ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, on va inciter les femmes à faire des bébés, et en même temps, dès qu'elles ont des bébés, elles sont la faute de tout, la cause de tous les torts, et en même temps, elles ont énormément d'obstacles. Ah, donc, le fond, les obstacles à la maternité. C'est pas exagéré, je vous invite à lire nos rapports. Sur les inégalités femmes-hommes, c'est vraiment la cause principale des inégalités femmes-hommes.
Alors, c'est un tableau extrêmement sombre de la situation, sachant que la France est un des pays, d'une part, les plus généreux en matière de politique familiale, avec des insuffisances, avec des trous, et d'autre part, un des pays où, ça va peut-être vous choquer, les inégalités entre les hommes et les femmes sont les plus réduites. Il en demeure, elles sont peut-être d'autant plus insupportables, mais le tableau extrêmement sombre de la situation est parfaitement discutable. Projetons-nous 20 ou 30 ans en arrière, et on verra que notre situation n'est pas celle d'un paradis, bien entendu, mais les choses se sont considérablement améliorées. En termes d'offres de mode de garde, en termes d'inégalité de salaire des hommes et des femmes, bien sûr, il demeure des problèmes. Personne ne va le nier, mais faire un tableau aussi sombre, ça n'est pas correct.
Les auditeurs veulent participer aussi. Voilà. Elodie nous dit très résolue, jamais je n'ai eu envie d'avoir d'enfants et ce n'est pas parce que l'État nous y invite que je changerai d'avis. On va se demander dans la prochaine partie de ce débat si les politiques natalistes incitatives sont efficaces. C'est là toute la question. En Hongrie, par exemple, Viktor Orban a pris les choses à bras-le-corps pour faire de son pays un havre fiscal pour les familles. Elle offre à toute mère d'au moins 2 enfants une exemption d'impôt à vie. Est-ce que ça vous dirait, vous, si vous aviez 2 enfants, de ne plus payer d'impôts? Vous réagissez au 01 45 24 7000.
On était bien assis avec Spiltab.
France Inter. Le débat de midi.
On est toujours ensemble jusqu'à 12h45 sur France Inter avec la journaliste Gabrielle Cluzel, auteure de Yes Kids, avec la militante féministe Anne-Cécile Mayfair de la Fondation des Femmes, l'économiste Maxime Zbahi qui s'inquiète de voir dans nos parcs les balançoires vides et le sociologue Julien Damon qui pense qu'il y a de nobles batailles pour la natalité. Et on interroge ce mot pendant cette heure de débat, ce mot du natalisme. La France, vous le savez, est face à un baby crash. Doit-elle se lancer dans des politiques natalistes comme c'est le cas en Russie, en Hongrie, dans des pays autoritaires, mais aussi eh bien, dans des démocraties comme la Corée du Sud ou le Japon? Doit-elle faire tomber ce tabou? Vous avez été très nombreux à réagir sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000, comme Pauline qui s'est enregistrée sur le WhatsApp de l'émission.
J'ai 27 ans, j'aimerais avoir des enfants. Et est-ce que j'ai envie de faire des enfants dans le monde actuel, traversé par toutes les crises climatiques? Et est-ce qu'il ne faudrait pas déjà prendre des mesures pour lutter, par exemple, contre le changement climatique ?
Merci Pauline, on voit bien donc que le désir d'enfant est quelque chose de très profond, de très intime, et qu'effectivement on se demande si le politique ce matin peut quelque chose pour inciter ce désir d'enfant. Maxime Zbahi, est-ce que pour vous les politiques incitatives natalistes sont efficaces ?
Alors, il faut déjà voir lesquels. Peut-être juste pour rebondir sur le message qu'on vient d'entendre, c'est intéressant, effectivement, on commence à voir l'éco-anxiété dans les sondages qui montent. Alors, c'est très minoritaire, on ne sait pas encore si ça a un impact vraiment sur la fécondité, il faudra attendre un peu. Mais c'est intéressant parce que on peut aussi estimer qu'un enfant, c'est un geste très écolo, qu'un enfant, c'est une lueur pour l'avenir, c'est une lueur d'ailleurs avant d'être un pollueur, que c'est un ambassadeur de l'avenir aussi, un enfant.
C'est une jolie formule.
Si on se bat pour les générations futures, en fait, la raréfaction des enfants fait qu'aussi, on a peut-être moins d'horizons longs et qu'on pense moins l'avenir. Et donc, le débat sur l'écologie et la fécondité, il est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Pour répondre à votre question, ce qui est intéressant vraiment de voir, et je pense que c'est la clé de tout ça, c'est qu'effectivement, le désir d'enfant ne s'éteint pas. Le désir d'enfant, et notamment en France, il est encore très élevé. Alors, il a un petit peu décliné sur les 20 dernières années, mais quand on demande aux Français, la Fondapol a fait il n'y a pas très longtemps une étude là-dessus, 75% des Français en âge de procréer veulent des enfants. Quand on demande quel est le nombre idéal d'enfants qu'on aimerait avoir, ça tourne autour de 2,3. Or, effectivement, aujourd'hui, on est à 1,6. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre la volonté et la réalité. Et cette différence, elle est positive. Et je pense que là est toute la légitimité pour l'action publique, justement, de permettre aux gens, à ceux qui veulent faire des enfants, de pouvoir réaliser leurs projets parentaux. Ceux qui ne veulent pas en faire, on est dans un pays libre, on les laisse tranquilles. Il n'y a aucune incitation. Et ce n'est pas en plus un président de la République qui va dire il faut réarmer, que les gens, tout d'un coup, vont se ruer dans les chambres à coucher et se mettre à faire des enfants. Ça ne marche pas comme ça. Et je vais rajouter d'ailleurs, on n'achète pas la fécondité. C'est-à-dire qu'on le voit partout. Ce n'est pas parce qu'on met de l'argent sur la table que les gens vont faire des enfants. La parentalité n'est pas corruptible. Ça dépend d'un contexte. Et aujourd'hui, le contexte, notamment en France aussi, est plutôt, on va dire, le vent est beaucoup moins porteur pour les jeunes.
Ils subissent la crise du logement,
ils subissent aussi les solidarités intergénérationnelles, ils doivent payer les retraites, ils ont la crise écologique. La pauvreté aujourd'hui est jeune. Je vous rappelle que la pauvreté, elle est étudiante, c'est la jeunesse aujourd'hui.
S'ils paient les retraites des autres, ce serait intéressant que certains paient leur retraite, parce qu'on sait très bien que ce seront leurs enfants qui paieront leur retraite.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, ils paient leur retraite des retraités, mais ils en auront pas.
Non, moi, ce que je constate, c'est que vous dites oui, la maternité n'est pas corruptible ou la fécondité. Alors, vous savez, c'est cet argument. Évidemment, on peut plus parler après parce qu'on dit vous faites pas un enfant pour de l'argent. On est d'accord. Mais n'empêche que quand on est aidé matériellement, quand on a des enfants, c'est plus simple.
Ça dépasse le chèque.
Non, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que les allocations familiales sont loin d'être inutiles. D'ailleurs, on voit que quand vous parliez de Ségolène Royal, François Hollande a modulé, comme on dit joliment, soumis à conditions de ressources, les allocations familiales, eh bien, on voit bien qu'il a quand même fait baisser la natalité.
Ça a baissé bien avant. Ça a commencé à baisser avant que...
Ça n'a pas aidé.
C'est beaucoup plus structurel et profond que ça.
Je ne pense pas que c'est la cause de François Hollande. Il n'aime pas qu'on dit ça, mais néanmoins, convenons que ça n'a pas aidé. Ce que je veux dire, c'est que cette dame, cette personne qui communiquait au tout début en disant, avant elle, en disant, j'ai trois enfants, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas aidée pour une voiture, pour un logement, bah, c'est des choses extrêmement concrètes qui permettent d'avoir des enfants. Par ailleurs, je voulais juste revenir sur l'argument écologique. Moi, quelque chose me frappe, c'est que on dit aux femmes à la fois, il y a une injonction contradictoire sur l'altruisme. On leur dit, vous n'avez pas à vous sacrifier pour la société, on voit pas pourquoi vous auriez des enfants pour la société. Et en même temps, on leur dit, ah, il faut pas avoir d'enfants pour Gaïa. On a l'impression, la Terre, c'est devenu comme les divinités d'autrefois. Vous voyez, on devait leur faire le sacrifice propitiatoire des enfants. Alors, non, pour la société, c'est non. Et pour la planète, c'est oui, elles doivent se sacrifier.
On va recentrer le débat. Maxime Zbahi disait, le désir d'enfant ne s'éteint pas. Mais est-ce qu'on peut le rallumer? Est-ce que, par exemple, si on incite financièrement, par exemple comme en Hongrie, où effectivement Viktor Orban a fait ce havre fiscal pour les familles, est-ce que ça fonctionne, Julien Damon? Est-ce que ça peut redonner la liberté aux couples d'enfanter s'ils n'ont pas à se soucier de problèmes matériaux?
Alors, la natalité, elle peut être fonction des conditions de vie des futurs parents, mais surtout des considérations sur la vie. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Alors, on peut améliorer les conditions de vie, mais les considérations sur la vie, il n'y a pas beaucoup de politiques publiques qui ont un impact immédiat.
Viktor Orban, ça ne marche pas.
Attendez, parce que le temps long, on l'a laissé à M. Orban.
Oui,
c'est-à-dire qu'il a été deux fois Premier ministre, et lorsqu'il est arrivé aux affaires, au début des années 2010, la fécondité, c'est vrai, était au plus bas. On peut s'envoyer plein de chiffres, elle était 1,2 enfants par femme. Il a fait des efforts absolument considérables. Ça a augmenté incontestablement. On arrive à 1,6 et ça a depuis un tout petit peu baissé. Donc là, on est toujours en train de dire « Ah, regardez ce que fait Monsieur Orban !» De l'autre côté, il y a des pays qui ont des niveaux de fécondité encore plus faibles, qui font des efforts encore plus consistants, des efforts relatifs encore plus consistants. C'est les pays où les taux de fécondité sont les plus faibles au monde, les pays riches. C'est Taïwan, c'est Hong Kong et le plus connu, la Corée du Sud. Ça n'a strictement aucun impact. Alors comment résumer tout cela? Parce qu'évidemment, après, on peut se bagarrer sur des virgules et des mesures. C'est que les politiques publiques peuvent avoir une influence puissante sur la natalité, mais c'est une influence négative. On a déjà évoqué le cas de la Chine. Alors résumons, les Chinois ont été hyper efficaces en matière démographique lorsqu'ils ont lancé leur politique de l'enfant unique. Hein, quand on cogne sur les gens qui veulent des enfants, ça marche. À l'inverse, et là, les Chinois veulent développer une politique de la famille nombreuse, ça ne marche pas.
Alors, il est
en
plus
un mot,
facile de faire baisser le taux
exactement.
De natalité.
Exactement. Il est beaucoup plus facile de faire baisser la natalité que de le faire reprendre à la hausse. Ouais.
Vous dites qu'il faut laisser le temps à Viktor Orban. Enfin, Viktor Orban n'arrête pas de durcir les lois sur l'avortement. C'est absolument pour les droits des femmes. Viktor Orban est extrêmement néfaste. Et c'est sûrement parce qu'il n'arrête pas de durcir les lois sur l'avortement qu'il y a aussi peut-être une petite augmentation du nombre de naissances. Parce que la manière dont on peut agir fortement sur la natalité, c'est soit interdire les naissances, soit interdire l'avortement et la contraception. Si on veut plutôt être dans des pays dans lesquels on se dit que la liberté individuelle compte quand même un minimum, ce qu'il faut faire, c'est écouter les femmes. Écouter les mères, plutôt que de décider pour elles qu'en fait ce qu'elles veulent c'est des réductions fiscales ou ce qu'elles veulent c'est un chèque de 75 euros, écoutez-les. Vous verrez qu'en fait. Écoutez-moi jusqu'au bout, Madame Cluzel, parce que vous allez voir qu'on est. Non, mais écoutez-moi jusqu'au bout, parce qu'en fait on va peut-être être d'accord quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le chèque de 75 euros, c'est plutôt effectivement les conditions de vie, c'est les conditions dans la société, c'est la manière dont on place la vie aussi, dont on favorise plus généralement la vie. Donc par rapport à, vous disiez tout à l'heure, les sacrifices au profit de Gaïa, la terre-mère. Moi je pense que c'est pas du tout ce que disent les femmes qui aujourd'hui disent, en fait moi je veux pas un enfant dans ce contexte-là, c'est pas le sacrifice pour Gaïa, c'est plutôt de se dire en fait, on est dans une société mortifère dans une certaine mesure, puisqu'en fait on n'arrête pas, et particulièrement en ce moment où on nous parle de guerre et de guerre mondiale toutes les semaines, où en fait nos enfants ne verront pas les oiseaux, peut-être plus les abeilles, tout un tas de choses comme ça, et on voit absolument pas les politiques se bouger sur ces sujets-là. Et ensuite, les conditions économiques, bien sûr, mais économiques et matérielles, c'est favoriser le logement, favoriser l'accession à un certain type de confort matériel, et c'est pas un chèque qui va permettre ça.
Les modes de garde, c'est un vrai sujet. C'est une des politiques publiques, on le voit dans la recherche académique, une les moins inefficaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a changé quand même depuis 30-40 ans, c'est que les femmes travaillent aujourd'hui. Mm. Le taux de participation des femmes au marché du travail n'a jamais été aussi élevé. Et donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit que ce sont dans les pays où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée que la fécondité résiste le mieux. Pour deux raisons, parce que le désir d'enfant et le désir de carrière ne sont pas contradictoires, et parce qu'aujourd'hui aussi, on oublie un peu de le rappeler, on ne peut plus fonder une famille sur un seul revenu. Donc les deux doivent travailler. Or, la femme paye le coût de la parentalité, c'est elle qui le paye en premier. S'il n'y a pas des modes de garde qui lui permettent de poursuivre son désir d'enfant et son désir de carrière quand ils existent, alors à ce moment-là, elle doit se retirer du marché du travail. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. Je pense que c'est un levier d'action. En France, moi, en tant que jeune père, je suis en plein dedans. Les modes de garde, il y a une crise profonde. La petite enfance est sous-financée, sous-staffée. Il manque des places de partout, il manque des effectifs de partout. Et ça, je pense que c'est un moyen où on peut tous être d'accord autour de la table, que c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui pour permettre, encore une fois, de fermer cet écart entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants qui naissent aujourd'hui.
Beaucoup d'auditeurs nous écrivent effectivement leur livrer leur anxiété. Lucille, très inquiète, nous dit « Dans quel monde fait-on arriver nos enfants ?» Et Dominique dit « Entre la biodiversité qui s'effondre et la violence dans notre société, ça donne pas envie d'avoir des enfants. » Mais Marie nous dit aussi « Eh bien voilà, moi ça me donnerait envie d'avoir des enfants s'ils étaient accueillis partout, dans les lieux publics, dans les trains, dans les gares, dans les aéroports. » Est-ce que la société, Gabriel Cluzel, est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui « no kids » puisque vous êtes l'auteur chez Fayard de « Yes Kids ». Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas encourager une vision plus familiale de la société ?
Non, mais vous avez raison, vous avez infiniment raison. Et quand je disais qu'il y a des catégories de population aujourd'hui qui sont stigmatisées sans poser de problème à personne, il y a celle des enfants. C'est vrai que moi, je suis quand même assez choquée de voir des gens revendiquer le fait de vouloir être dans des hôtels sans enfants, ne pas être dérangés. Mais on peut quand même chercher la raison profonde. C'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux. Moins notre société a d'enfants, moins elle sait ce que c'est. Elle se retrouve comme une poule devant un couteau. Moins elle sait les élever. Un enfant, c'est comme une plante. Hein. On n'a jamais été plus proche de l'état de nature, enfin, ou revendiqué l'état de nature. Et pourtant, on oublie qu'une plante, il faut un tuteur. Donc, un enfant, il faut l'élever. Pour qu'il soit aimé, il faut qu'il soit aimable. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il soit éduqué. On parle aujourd'hui de la violence des mineurs. Il faut évidemment qu'il soit supportable pour les autres. Mais il faut qu'il soit accepté. Et aujourd'hui, il n'est pas accepté. Je vous dis, encore une fois, le climat général, ça, c'est vraiment important.
C'est aussi la montée de l'individualisme.
Évidemment.
C'est aussi un des risques de la dénatalité, c'est qu'effectivement, de moins en moins d'enfants, on s'habitue à ne plus voir des enfants. Ouais. Et la France des années 60, qui était une cour de récré bruyante d'enfants, bruyante, aujourd'hui, en fait, c'est plus clair. On est dans les sociétés vieillissantes aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de seniors et les enfants sont en train de se raréfier. Et du coup, on devient intolérant aux enfants.
Mais la société est une grand-mère, je trouve. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus d'enfants jeunes,
il y a des grand-mères très
on oublie. Non, mais c'est pas du tout pour attaquer les grand-mères. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a plus d'enfants jeunes, on oublie ce que c'est une perruque de Playmobil sous le tapis, un niveau sonore. Et je pense que la société française aujourd'hui n'accepte plus ça. C'est vrai qu'un enfant, ça bouge. Et ça, il faut quand même l'accepter.
En Corée du Sud, on voit exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire que c'est des pays qui font quasiment plus d'enfants. Ils sont à 0,7 enfants par femme en moyenne. Hein. C'est le taux de fécondité, je parle sous le contrôle de Julien Damon, le plus bas au monde. Et on voit des espaces, effectivement, no kids fleurir de partout. Et donc, il y a une forme de schizophrénie où d'un côté, on dit il faut absolument des enfants. Et de l'autre côté, l'espace public devient de plus en plus fermé aux enfants.
Et plus de deux tiers des pays aujourd'hui ne font plus assez d'enfants pour renouveler leur population et certains ne font plus quasiment d'enfants du tout. Alors, et on le voit bien à travers ce débat, la sous-natalité s'impose comme le sujet du siècle. On ne mesure ni la profondeur ni la rapidité de ce bouleversement. Mais si, comme vous le dites, eh bien, le natalisme forcé est voué à l'échec, quelles sont les solutions ? S'ouvrir à l'immigration, par exemple ? Est-ce que vous êtes pour remplacer nos enfants par des repos ou se draper majestueusement comme le fait un pays comme le Japon qui a choisi le déclin, une société fermée mais vieillissante. On va en débattre juste après Curtis Harding, There She Goes sur France Inter et on va se demander aussi est-ce qu'il ne faudrait pas pour autant pour avoir des enfants rencontrer l'amour et avoir au moins accès à des sites de rencontres gratuits comme Tinder et Mythique. Eh bien oui, la natalité c'est quand même aussi d'abord rencontrer quelqu'un et faire un enfant avec lui. Yeah, there she goes. And in the sunshine, it's where she grows. And when she's happy, everybody knows. I'm thinking of love in a crowded space. Petals of strength, blooming with grace. There she goes. Yeah, there she goes. Just take a look around. Flowers grow from the ground. It seems so hard to deny. The pervy rose can't pass her by. But there she goes. Yeah, there she goes. She
Midi 37 sur France Inter, on continue à débattre dans ce studio pour se demander si l'hiver démographique est inéluctable en France, si le politique a le pouvoir d'inverser la courbe des naissances ou si le désir d'enfant est si intime qu'il ne peut pas être influencé. Beaucoup de messages d'auditeurs qui nous écrivent sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000, dont Annie qui nous dit « Quid du rôle des pères ? Cela est très masculiniste de ramener le choix de faire un enfant à la femme. Un enfant, ça se fait à deux. Merci. » Annie, on va parler du rôle du père. On va se demander aussi si aujourd'hui un enfant, ça se fait tout seul. Vous êtes beaucoup aussi à vous être enregistré sur le WhatsApp de l'émission 01 45 24 7000 et beaucoup à ne pas comprendre eh bien, pourquoi il y aurait une prime aux familles aujourd'hui en France. Par exemple, Laurent, qui n'est pas content du tout, nous dit à quel moment la société va arrêter de subventionner ce modèle social dominant qui coûte très cher à la société, que celles et ceux qui veulent des enfants assument, tout comme Valentin.
Pourquoi accorder autant d'avantages fiscaux et financiers à ceux qui ont choisi d'avoir un enfant en assumant les conséquences du coût que cela implique, tandis que ceux qui font le choix de ne pas en avoir semblent au contraire, eux, pénalisés.
Gabriel Cluzel, pourquoi est-ce qu'il y aurait une prime aux familles,
effectivement ? Alors, il faut que ces personnes signent un papier en disant qu'ils renoncent à la retraite par répartition, par exemple. Et quand il y a un certain nombre d'avantages pour la société tout entière, collectif, à avoir des enfants, évidemment. Enfin, ça me paraît quand même une marque d'individualisme extrêmement forte. Par ailleurs, je crois qu'il faut battre en brèche ce présupposé selon lequel on aurait des enfants pour les allocations familiales. Parce que chacun sait très bien que le coût, si on se borne simplement au côté économique, le coût d'un enfant n'est jamais compensé par les allocations familiales.
Et on ne parle pas du coût de la fatigue.
Non, mais ça, on pourrait en parler pendant des heures. On peut refaire 3 émissions sur le sujet. Donc, si vous voulez, je suis quand même assez surprise de voir des réflexions de ce type-là. Moi, je ne juge pas. Je veux bien en discuter avec ces gens, mais je m'étonne quand même qu'ils ne voient pas l'intérêt pour eux que les autres aient des enfants.
Julien Damon, on parlait de cette société dite individualiste. Est-ce que dans cette société où on est chacun sur son écran, un peu emporté par le métro boulot dodo, est-ce que la solution aussi, ce n'est pas d'offrir des modes de rencontre finalement au prochain couple ? Vous avez fait cette proposition qui avait animé le débat public pour encourager la natalité, encourager les rencontres, rendre les sites de rencontres comme Tinder et Meetic gratuits.
Alors, sur la fécondité, je vais arriver à la réponse précise. D'abord, cocorico, on l'a oublié dans tout notre débat, mais la France est encore parmi les pays riches, même si ça baisse, un des pays où la fécondité est la moins dégradée. Il était bon de le rappeler. Deuxième chose, il y a des éléments de politique publique, dont mon idée, qui peuvent permettre de ne pas se dégrader encore davantage et peut-être d'espérer remonter. Principalement les modes de garde, on l'a dit tout à l'heure. Et pourquoi on le sait ? Parce que on fait des corrélations entre les pays de l'OCDE, on s'aperçoit qu'auparavant, là où les parents travaillaient, là où la mère travaillait, la fécondité était plus basse. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et pourquoi on le sait aussi ? C'est tout simplement parce qu'on est intelligent et on pose la question aux jeunes gens. On leur demande, est-ce que vous voulez des enfants ? Oui, non. Et qu'est-ce qui vous en empêche ? S'ils répondent non, ils nous mettent en avant, parfois, des questions qu'on a déjà évoquées dans l'émission, de type éco-anxiété. Mais on n'y peut pas grand-chose immédiatement. En revanche, ils nous disent, moi, je voudrais un mode de garde. Je voudrais être certain d'avoir un mode de garde. La garantie d'avoir un mode de garde de qualité, c'est la première politique publique. Et la deuxième chose qu'ils mettent en avant, ils disent, j'aimerais bien, mais j'ai pas de conjoint. Et c'est là que j'arrive avec mon idée force, qui fait marrer tout le monde, je le conçois, mais qui a un fond sérieux, pour le faire de façon rigolote. Oui, en effet, une politique publique intelligente, ce serait de nationaliser Meetic, ou si on est libéral, de faire des chèques Tinder qui permettent aux gens de se rencontrer, on peut ramasser ça de façon plus sérieuse en disant que c'est un sujet clé que de lutter contre l'isolement. Vous n'avez pas un homme ou une femme politique qui, en France, ne prend pas un air très triste, très sérieux pour dire qu'il est très important de lutter contre l'isolement. Donc quand on a dit ça, tout le monde applaudit, oh, bravo, c'est pas idiot, il a raison le chef. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Et en effet, vous avez des gens qui... aujourd'hui, puisque majoritairement on se rencontre par des sites pas forcément spécialisés, mais en tout cas en ligne, il y a des gens qui ne savent pas faire, il y a des gens qui n'ont pas accès, il y a des gens qui ont honte de passer par cela. Et parmi la boîte à outils, en effet, du côté des caisses d'allocation familiale ou des collectivités territoriales, je pense qu'elles pourraient apprendre aux gens à faire des sites de ce type. Mais elles peuvent faire aussi autre chose. Moi, je plaide pour que les CAF financent des boîtes de nuit et des bars aussi.
Évidemment, quoi, et des conseillers conjugaux dans les mairies pour ne pas aider à accompagner les couples dans
un divorce, ou voilà. Tout ça, effectivement, ça fait partie de la boîte à outils. Alors, il y a une boîte à outils un peu plus simple et radicale, c'est-à-dire la France ne fait pas assez d'enfants, elle a besoin de bras, elle a besoin de mobilité active pour financer ses retraites. Dans ces cas-là, on ouvre à l'immigration. Maxime Sbaï, ça c'est une solution ?
Oui, en fait, le trilemme auquel sont confrontés les pays riches, c'est les bébés, les immigrés ou les robots. Les bébés, ben, comment on refait les bébés ? On vient d'expliquer que c'est quand même assez compliqué, il n'y a pas de solution magique. Moi, je milite pour qu'on remette quand même la politique publique sur la jeunesse, qu'on lui redonne de l'argent, qu'on lui redonne les moyens de se loger, que la pauvreté aussi qui a explosé chez les jeunes.
On a vu tout ça, voilà. Maintenant passons à l'immigration et la robotique.
Donc le natalisme très limité, on l'a dit. Il y a des pays qui sont déjà confrontés, parce que la dénatalité, au bout d'un moment, ça dure et ça commence à avoir un impact sur le marché du travail et sur le nombre de cotisants et le nombre d'actifs. Mmh. Et donc, en fait, concrètement, vous manquez de bras et de cerveau pour faire tourner l'économie. Alors, certains pays, notamment, c'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne a besoin de 400 000 actifs étrangers par an pour simplement stabiliser sa population active, c'est-à-dire pour avoir juste assez de gens pour faire tourner l'économie. Elle a ouvert les vannes de l'immigration. Alors, ça pose bien sûr des questions d'intégration, d'acceptation politique. L'immigration ne fait pas repartir la natalité à la hausse. Hein. La deuxième génération s'aligne exactement sur les taux de fécondité du pays d'accueil. Ça, c'est l'option allemande. Et puis, il y a une option, vous l'avez un peu mentionné, le Japon. Le Japon, ils font quasiment plus d'enfants, ils perdent 100 habitants par heure, et traditionnellement, historiquement, ils sont pas très ouverts à l'immigration. Et eux se disent, bah, finalement, les humains qui nous manquent, on va les remplacer par des robots, on va robotiser tout ça, ça va faire un gain de productivité, et finalement, pourquoi les humains? C'est démodé, on peut s'en passer.
On
c'est
peut beaucoup s'en passer. Que ça. Je vous rappelle les chiffres, 48% des Français sont pour une immigration zéro en France, qu'elle soit légale ou illégale, mais Gabriel Cluzel, on les entend, tous ces auditeurs, eh bien, ne sont pas forcément pour faire sept enfants comme vous qui avez une famille nombreuse.
Je ne cherche pas à convaincre tout le monde d'avoir
sept enfants. Non, je l'ai dit d'avoir sept enfants, mais en tout cas, est-ce que la solution, cas, effectivement, c'est pas d'ouvrir la France à l'immigration ?
Moi, je vais vous dire un truc, je trouve que c'est extrêmement réducteur, voire méprisant, tant pour la population qui accueille que celle qui arrive, d'imaginer que de réduire les individus à des homo economicus, qu'ils sont tous des pages blanches, qu'ils n'ont pas de culture propre, d'enracinement propre, d'envie de rester sur la terre de leurs ancêtres ou d'avoir leurs propres enfants sur la terre de leurs ancêtres, et d'imaginer qu'on peut tous les interchanger. Bah, faisons venir des populations immigrées, puis s'occuperont de nos personnes âgées. Bah, eux aussi sont des personnes âgées dont ils souhaitent s'occuper peut-être chez eux. Donc je crois que tout cela est un débat extrêmement rude, et je parlerai spécialement du domaine du grand âge, parce que maintenant je le connais avec mes parents, des EHPAD, etc. C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez des robots, mais est-ce qu'on imagine que des robots vont pouvoir remplacer un enfant ? Un enfant qui va tirer un coussin, lever un store, changer les idées, etc.
Alors,
donc tout cela me paraît
extrêmement
froid.
Les enfants peuvent-ils être remplacés par des robots ? Ça sera l'occasion d'un autre débat. Je vous laisse finir ce débat par Bénédicte qui nous dit « Le corps des femmes n'est pas à la disposition de la nation pour faire des enfants. Et les enfants ne sont pas des objets. Non, les enfants sont là pour être aimés. » Le débat de midi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir pris part à cette discussion. On revient dès demain avec une question. L'intelligence artificielle, qui est plutôt attachée aux fake news, aux images générées de toutes pièces qui faussent notre rapport à la réalité, peut-elle être mise au service de la démocratie ? On va en débattre. Et vous participez dès maintenant au 01 45 24 7000. À la réalisation, c'était Riyad Kera. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Et à la technique aujourd'hui, c'était David Dibouet-Black. Merci infiniment d'avoir été parmi nous.